Alors, Balls Out, est-ce que tu peux nous présenter un peu le groupe à nos lecteurs?
Alors, le groupe Balls Out est né en 2016, sous les cendres du groupe Outrage qu'on a avec Yann, donc le guitariste. On a commencé, Yann et moi, en 2007, la musique ensemble. En 2016, on s'est retrouvés, on a dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, et puis... On a monté un groupe, un nouveau groupe, lui et moi. On a recruté deux super musiciens, Sonny à la guitare et Pierre à la batterie. Et c'est très rapidement devenu Balls Out. Donc on fait un rock comme on aime.
D'accord, justement, est-ce que quelle est un peu la démarche et puis les influences communes au sein du groupe?
Les influences communes au sein du groupe, on est vraiment, voilà, on est des enfants d'ACDC, Motorhead, Kiss, Led Zeppelin. Et on vient vraiment de cet univers-là, tous les quatre, et on arrive à mixer aussi avec d'autres influences, et arrive à quelque chose qui est nous. On a réussi à vraiment mixer tout ça et à faire notre couleur musicale à nous.
D'accord. Tout ça, c'est pas des groupes, c'est tous des références, mais pas des groupes très récents. Sur des choses plus récentes, il y a des choses qui vous plaisent ou non?
Oui, des groupes comme Airborne, Corritney, voilà cette nouvelle scène émergente qui du hard rock qui prend bien le flambeau, hein, vraiment qui a repris le flambeau des grands gardiens, quoi. Donc du coup on est aussi influencé par cette vague là.
D'accord. Alors peut-être la question paraît un peu idiote, mais on a l'impression que dans votre domaine, enfin
ouais.
C'est le cas dans beaucoup musical, mais en particulier dans le vôtre, un peu tout a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de tourner en rond ou se répéter ou...
Bah, en fait, pour pas tourner en rond, on mixe un peu plus de nos influences personnelles en mettant un peu de stoner dans le hard, un peu de heavy, un peu de blues. Donc le style lui-même est difficile à renouveler, mais en y apportant d'autres styles qui sont des fois un peu plus loin ou un peu plus proches, on arrive à créer quelque chose de nouveau.
D'accord. Pour te connaître un peu mieux toi-même, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours artistique avant Balls Out?
Alors, j'ai commencé la musique à la basse à 11 ans. À 14 ans, j'ai commencé à être bassiste dans des groupes de reprise dans les pubs, jusqu'à mes 18 ans. Et après, en fait, à 18 ans, en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être un photocopieur musical, quoi, de faire toujours des reprises des autres musiciens. J'ai envie de créer, moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à composer et à jouer dans des groupes vraiment de compos. Et quand j'ai eu 21 ans, j'ai rencontré Yann avec mon meilleur ami et à la guitare. Donc du coup, on a fait un groupe ensemble, voilà, qui était Outrage.
D'accord. Et en tant que musicien, tes références personnelles à toi?
Alors, c'est vraiment varié parce que je suis un grand fan des Beatles. Pour moi, ça reste de la base musicale, vraiment tout sur la composition, surtout sur les harmonies, sur les mélodies. Je suis très fan de Serge Gainsbourg dans sa façon d'écrire les textes et de jongler avec les mots. Après, c'est vraiment varié parce que je suis aussi très influencé par Motorhead, un chanteur bassiste avec une voix dont la mienne se rapproche un petit peu de la sienne. J'aime beaucoup Fleetwood Mac. Voilà, donc c'est assez varié et donc du coup, ce qui fait que je m'ouvre à beaucoup de choses aussi musicales autres que le style rock.
D'accord. Tu disais dans ton adolescence, jeunesse, il y a eu un moment, un déclic. C'est lié à une chanson, un artiste particulier? Il y a un événement qui a créé ça?
Oui, en fait, c'est en voyant des groupes de reprises, les mecs avaient la quarantaine à ce moment-là et faisaient des dernières reprises, des dernières chansons à la mode. Aujourd'hui, on dirait, voilà, comme si un groupe de rock dirait aujourd'hui, ouais, faut qu'on fasse des spacito parce que ça plaît aux gens et tout. Mmh. Et j'ai trouvé cette démarche ridicule et pathétique dans un sens, même en me disant que j'ai pas envie de scruter la dernière truc qui plaît aux gens. Et de faire une chose un petit peu rock pour pouvoir avoir 3 personnes en plus dans le pub et toucher 3 cacahuètes, quoi. Pour moi, c'est vraiment mon avis personnel, ça perd de l'âme du musicien. Tu es, voilà, plus qu'une personne qui exécute et tu joues plus, quoi. Donc du coup, je voulais vraiment pas en arriver là, me dire quand j'aurai 40 ans, je vais toujours gratter les mêmes chansons, faire Wonderwall dans les clubs tous les soirs, non merci, quoi.
D'accord. La première trace discographique de Balls Out, c'est un EP que vous avez sorti l'année dernière, qui s'appelle Too Big to Handle.
Oui.
Je suppose que quand on est un groupe, on se dit toujours, est-ce qu'on a besoin d'avoir une première carte discographique qui est sous la forme d'un EP qui quand même coûte un peu moins cher et qui permet de se faire connaître,
oui,
ou aller directement à l'album? Vous, quel a été un peu vos choix ou vos stratégies?
On s'est dirigé vers l'EP, au gros, soit aussi de finances.
Bien sûr.
Ça coûte moins cher.
Bien sûr.
C'est, voilà. Et puis, c'est une vraie carte de visite. On s'est dit que si ça marche avec ça, on passerait à la vitesse supérieure très rapidement. C'est pour ça qu'il y a un an entre l'EP et l'album. Parce que, il y a eu un très bon accueil. Pour nous, ça a été une bonne réponse à ce qu'on a fait. Donc, du coup, on a dit on fonce et on fait un album direct derrière, quoi.
D'accord. Mais tu disais création du groupe vers 2016, donc il y a eu un an et demi, presque deux ans entre la création du groupe et l'EP.
Oui.
Au niveau artistique, musical, vous vous êtes cherché ou ce qui apparaît sur l'EP, tu l'avais toi en compo ou Yann à guitare?
On jouait en live en fait.
D'accord.
On s'est créé vraiment le groupe, les répètes à quatre. On a commencé septembre 2016, janvier 2017, premier concert.
D'accord.
Ah oui, en 2017, on a tourné jusqu'à septembre, octobre, il me semble, octobre-novembre pour l'enregistrement de l'EP. Mais on a fait des concerts, on a fait nos preuves en live. Et après, on l'a mis sur l'EP, quoi. Mais c'est des titres, voilà, même les titres du nouvel album, c'est des titres qu'on a testés en live depuis le début du groupe, quoi.
D'accord, mais tu disais donc environ 3-4 mois entre le début du groupe et la première scène. Mais donc, en 3 ou 4 mois, vous aviez eu le temps de vous faire un répertoire?
On travaille assez vite en fait, on arrive avec des idées, on travaille très rapidement, on a été galvanisé par le début, donc du coup on a très très vite composé et on compose tout le temps en fait, on s'arrête jamais de composer. Même quand on prépare des concerts, des gros concerts derrière, rien répète, on emmène toujours un nouveau riff, même à la maison dès qu'on a un riff on l'enregistre sur le téléphone, donc du coup c'est vraiment une composition permanente.
Une petite question qui va peut-être te surprendre un peu, mais quand on est un musicien, donc bon, tu assures du chant, mais il y a aussi, donc tu disais, le choix de la basse.
Oui.
Alors c'est un peu moins vrai dans votre secteur à vous, où souvent il y a des quatuors assez puissants, et tu parlais de l'EMI et autres Motorhead, mais souvent la basse c'est un peu le mec qui est derrière, qu'on entend à moitié pas.
C'est ça. C'est
un choix bizarre, non, la basse, pourquoi?
Non, moi vraiment, ça s'est venu tout seul, le choix de la basse. Parce que j'ai été influencé, j'ai écouté des groupes comme Metallica où Cliff Burton était un ovni en tant que bassiste parce qu'il avait des mélodies, il jouait vraiment comme un soliste. J'ai été aussi influencé par les Who, où le bassiste des Who, c'est lui qui a popularisé la basse en tant qu'instrument lead et non d'accompagnement. J'ai vraiment été influencé par tous ces bassistes-là qui n'étaient pas des bassistes conventionnels. Donc j'ai eu de la chance voilà, de ne pas être que le gars derrière qui fait boum 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 quoi.
D'accord, ou même un groupe peut-être comme Queen, je sais pas si ça fait partie des influences ou...
Oui, John Deacon, oui, totalement.
Bien sûr.
Pour moi en tant que bassiste, j'ai voulu apporter ce côté-là dans mon jeu.
D'accord. Un petit détail, tu joues au doigt ou au pic?
Enfin, t'as un... Au doigt,
d'accord.
100% doigt. Ouais.
Ok. Donc tu commences à déjà un peu le dire, mais en général, quel est le processus typique de création d'un titre au sein de Balls Out?
On arrive en répète on travaille le set qu'on doit travailler pour un concert ou pour l'album. Là, pour l'enregistrement de l'album, on s'est concentré sur l'album. On fait une répète de 2 heures. On fait tourner soit le set, soit ce qu'on doit faire. Et après, on se fait une petite pause. Et après, on emmène des idées, on montre, t'as fait quoi toi, on avait une chanson qu'on a mis de côté, on la reprend. Et c'est comme ça que ça met les chansons.
Donc, ça veut dire que, par exemple, dans ton téléphone portable, t'as des dizaines d'idées sur un riff, une idée, un machin, une mélodie?
C'est
ou...
ça.
D'accord.
Donc, si on le vole, je suis bien. Mais bon, après, je les mets sur un drive, hein, donc pour plus de sécurité. J'ai pas mal de chansons qui sont... On a tous pas mal de chansons dans nos téléphones qui sont en piste de travail, quoi.
D'accord. Mais donc
et après, une fois que les chansons sont structurées, j'apporte les paroles.
Ok. C'est un processus qui est souvent intéressant, lié à des jams, vous rebondissez les uns sur les autres, mais ça génère aussi souvent beaucoup de déchets. Est-ce que c'est votre cas ou vous travaillez vite et bien?
On travaille vite et bien, mais on a quand même des déchets. On a une poubelle de riff, hein. Mmh. C'est temps en temps, on rouvre la poubelle et on se dit on a bien fait de jeter ce riff-là, quoi. Ou quand on s'aperçoit bah, que le riff il ressemble étrangement à un truc déjà connu. Donc c'est vrai que ça arrive dans ce style, ce qu'on disait, quand on recrée rien dans un sens, dans le hard rock, c'est vrai que des fois ça nous arrive en répète de sortir un riff, putain c'est vachement bon, c'est vachement bon, et se dire putain, ouais, mais c'est une des premières chansons de la CDC, quoi, limite. C'est aussi un piège à pas tomber dedans, dans cette facilité-là du plagiat déguisé.
Oui, oui, parfois c'est inconscient, mais...
Oui, mais donc voilà, donc on fait très attention à ça, donc c'est pour ça que des fois, ça n'est de deux, trois mesures, mais voilà, quand ça ressemble trop, même si ça n'en est pas, si ça ressemble trop, vraiment, on se dit, non, si on va sur ce terrain-là, on va être... on se discrédite, quoi.
D'accord. Donc finalement, sur l'album, il y a 8 titres qui apparaissent.
C'est ça.
Donc, pour qu'il y ait 8 titres sur l'album, vous en avez bossé combien?
On a dû en avoir 13, 14 maxi, grand maximum.
Et ceux-là, ils sont mis de côté poubelle ou ils sont mis de côté, on verra?
Ils sont mis de côté à retravailler, parce que si c'est pas sur l'album, c'est que ça correspondait pas à ce qu'on voulait pour ça, pour un album, pour montrer. Donc c'est soit à creuser, il y en a quelques-unes qui sont devenues poubelles et qu'on a même retiré des lives.
D'accord. D'accord.
Voilà, parce que ça correspond plus à ce qu'on à ce qu'on veut vraiment faire ressortir et de notre respect du groupe, quoi.
Mmh, d'accord. Voilà. Je pense que bon, vu là aussi votre veine musicale, le chant en anglais s'est imposé, mais vous avez fait des tests sur du français ou pas du tout?
Non, du tout.
Et ça vous intéresse pas?
J'arrive pas à composer sur du français parce que j'étais influencé par les musiques anglaises et américaines. Mmh. Et je laisse ça à ceux dont c'est vraiment qui ont vraiment ce talent-là de jouer avec la langue de Molière. D'accord. Je connais celle de Shakespeare pour ça.
D'accord. Et donc tu disais qu'une fois que la musique est composée, tu t'occupes, tu t'attaques justement des paroles. T'as aussi un process particulier d'écriture des paroles ou comment ça se passe?
C'est vraiment sur ce que la chanson m'inspire, et après je prends des éléments qui sont autobiographiques ou non, et je décolle. C'est vraiment c'est sur le feeling de la chanson, quoi.
Et donc là aussi, dans ton téléphone, t'as des textes, t'as des bouts de phrases, t'as des machins tout le temps, ou?
Non, pas du tout. J'écris les textes définitifs que quand la chanson est vraiment structurée et fini, quoi. Que tout est fait dessus, que voilà, qu'on ait toute la composition entière de la chanson prête limite à enregistrer.
D'accord.
J'apporte la peau au squelette et à les muscles et tout.
Mmh. Alors, en général, qu'est-ce que tu peux nous dire des sessions d'enregistrement de Let Me In?
Alors, ça a commencé dans la douleur pour moi parce que je me suis cassé le pied la veille, donc j'étais un petit peu diminué physiquement pour les premiers jours pour le premier mois de studio. Mais non, c'est vrai qu'on a bossé en 5 sessions d'enregistrement, 5 samedis en fait, on est allé au studio pour enregistrer. Ça a été assez rapide et efficace. On a travaillé avec quelqu'un en fait qui a vraiment compris l'essence du groupe et ce qu'on voulait avoir en finale. Donc du coup, on a travaillé vraiment main dans la main avec Raphaël du studio Replug, qui nous a bien compris et qui nous a bien aidé aussi dans le process d'enregistrement.
Vous aviez bossé également avec lui à Replug pour Too Big to Handle ou non?
Non. Too Big to Handle, on l'a fait au Sun Studio à Villeneuve-Loubet, et après il a été masterisé par Stéphane Brunello à 10 derrière.
Donc là, le studio, il est à Cannes, donc pas très loin de chez vous, à nouveau.
Au Cannes, ouais. Pas très loin.
Vous y êtes allé sur conseil, vous connaissiez le gars, ou...
On connaissait le gars parce qu'on répète là-bas. Il fait sur l'enregistrement et aussi local de répétition.
Ah oui, d'accord, c'est ce qu'il disait, ok.
Et pourquoi on en est venu enregistrer chez lui? Parce que on a écouté le travail qu'il a fait sur le nouvel album de Chris Holmes. Mmh. Donc du coup, on est resté vraiment scotché sur son travail dessus, et on s'est dit que si l'ancien guitariste de Wasp a enregistré chez lui, c'est que c'était pas n'importe quoi, quoi.
Et la preuve est là, quoi.
Donc du coup, et la preuve est là. Donc du coup, on était vraiment très content de bosser avec lui, avec ce qu'il a fait avant, derrière là, donc.
Et est-ce que par exemple en studio même, t'as fait des modifs de paroles, par exemple?
Non. C'est à la limite, oui, dans une phrase, changer, mais vraiment rien qui change le sens de la phrase, changer le temps. Donc voilà, enfin, c'est tout. C'est le seul truc qui a été modifié.
Ok. Donc le Let Me In, il sort chez MAO Music.
Oui, comme le P.
Ouais, ça s'est passé comment avec eux, enfin.
Bah, alors en fait, quand on a fait le P, on avait fait déjà mixer, masteriser au Sun Studio à Villeneuve-Loubet. Le son était, on avait envoyé à Alex de MAO, et le son n'était pas bon. Alex nous a dit, la prod n'est pas bonne. Il faut pour signer sur un label. Avoir une bonne prod, et c'est pour ça qu'on a récupéré toutes les bandes et on les a faites masteriser par Stéphane Briano qui a fait un travail fantastique dessus, et Alex a tout de suite banco, je vous signe quoi. Donc du coup il s'est installé une relation de confiance avec Alex qui est gratifiant parce que quelqu'un qui a un label comme ça qui vous signe alors qu'on venait de naître, hein, limite, hein.
Ouais.
On est vraiment né pas longtemps avant, donc du coup on s'est dit waouh, c'est que ça peut plaire, donc du coup voilà, on a essayé de travailler à part rompre cette confiance avec l'album Let Me In.
D'accord.
Voilà.
Alors, vous avez choisi un visuel assez simple.
Oui.
C'est
un visuel qui est aussi un peu même parodique, dans la dérision, voilà. C'est Let Me In, c'est comme si on nous voyait à travers un Judas. C'est voilà, laisse-nous rentrer, on va être des très très gentils garçons si tu me frappes, quoi.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est la petite pochette délire où on a pris du plaisir à la faire. En fait, on est sur scène comme dans l'album et comme dans la vie. On se prend pas la tête, on est fun, on rigole et on fait ce qu'on aime et on aime ce qu'on fait, quoi.
Super. C'est effectivement assez c'est bien l'idée qui passe. Toujours dans le domaine visuel, vous avez sorti un clip pour Morning Hard.
Morning Hard, c'est ça.
Tu peux nous en parler un peu, l'expérience que ça représentait?
Alors, le clip, c'est notre deuxième, parce qu'on avait déjà tourné un clip pour le Balls Out sur le P. Le clip a été d'ailleurs tourné au studio d'enregistrement. On a tout fait d'abord, on fait les répètes, on fait le clip, on a fait l'album. Donc on aime vraiment ce lieu, c'est notre deuxième maison. Et en fait, on a voulu rendre hommage à tous les clips à Hard Rock 80 dans l'esprit ZZ Top, Motorhead, où il y a une nana au milieu. Donc voilà, on a fait un clip en condition live avec une fille qui danse dessus et vraiment aussi axé sur le groupe, quoi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à tous ces clips qu'on a vus quand on était gamin. Dans les années 80, bon, pour moi, dans les années
80. Vous avez d'autres projets de ce type-là dans les tuyaux?
Donner naissance quand même assez rapidement dans un sens à un petit frère pour l'album.
En termes de vidéo, pardon.
En vidéo, oui, pardon. En vidéo, oui, il y aura un autre clip pour l'album qui sortira.
Ah,
pour sûr. On va essayer de le sortir
très
rapidement, du moins assez rapidement. Il va le tourner après les trois premières dates qu'on a en avril. Dans la période mai-juin, on va essayer de tourner le clip.
Ok. Et là aussi, on a l'impression que ça reste en 2019, ça reste important de pouvoir proposer un clip. On a l'impression que dans YouTube, il y a tellement de machins qui sortent tout le temps que c'est un peu noyé dans la masse. Ça reste important comme objet de promo pour
un visuel. Oui, un objet de promo, il faut à la fois un visuel parce qu'il faut mettre un visage sur de la musique, il faut mettre une identité visuelle. Même si on n'apparaît pas dans le clip, il faut qu'il y ait un autre support que le support de l'audio. Le clip comme il est né, c'est vraiment pour accompagner ça, et c'est pour ça que ça fait le succès de MTV en fait, qui est vraiment pour beaucoup dans le clip vidéo. C'est ce qui fait que ça reste un clip plus qu'une chanson des fois. Donc on a voulu et on voudra toujours composer ça pour c'est multidimensionnel, t'as l'œil et t'as l'oreille aussi, donc on a envie de jouer sur ces deux côtés.
D'accord. Dans 15 jours, vous avez une release party à Nice.
C'est ça.
Quelles sont vos attentes, en particulier pour cette date?
Pour cette date, finalement, de retrouver un lieu, parce qu'on a appris malheureusement hier que le lieu d'accueil de base d'Alterax, la salle de l'Alterax, était fermé pour travaux et attendait le feu vert de l'administration pour réouvrir. Donc là, on va déjà trouver une nouvelle route. C'est la petite mauvaise nouvelle, mais bon, on va trouver un lieu assez rapidement, là. On a envie d'avoir nos amis, nos proches, c'est pour ça qu'on le fait à Nice. Les gens qui nous sont proches et qui nous soutiennent, pour pouvoir fêter cet événement, avec eux, quoi. Et on n'attend pas qu'il y ait 3000 personnes, on attend juste que ben, les gens qu'on aime soient là.
D'accord. Et donc ça reste le site web ou Facebook pour avoir le nouvel lieu.
C'est ça, voilà. Okay. Facebook est alimenté plus. Après, ce qu'on alimente sur Facebook retourne sur le site web.
Mais oui,
Facebook reste le premier voilà, média et réseau social pour ça.
Là, j'ai vu que vous aviez déjà donc booké là aussi en plus 5 ou 6 dates derrière.
C'est ça. Ouais. Oui, après, donc, on est à Fréjus le lendemain, le 20 avril. Après, on est une semaine après, on est à Villeneuve-Loubet pour un concert caritatif pour les enfants de la Fondation de l'Hôpital Lamballe de Nice. Donc voilà. Et après, on va jouer sur Paris en mai. On va avoir des dates sur Marseille, Lyon, Toulouse, et pas mal, voilà, pas mal de dates qui vont arriver. On va sillonner les routes, quoi.
D'accord.
On va faire du kilomètre.
Justement, parlons un peu concert.
Oui.
J'aimerais te parler en particulier de deux événements. Votre première partie de Clutch.
Oui.
Je sais pas, ça a été un moment particulier dans le groupe ou.
Ah oui, ça a été un moment génial, quoi. Ça a été irréel dans un sens d'avoir été choisi pour ça. Donc du coup, on l'a vécu assez, en fait avec du recul, quoi, parce qu'on n'avait pas l'impression d'être là tout en étant là, quoi. Donc du coup, il y a eu une pression énorme, on était livide quand on est monté sur scène, mais le public a été super réactif, chaleureux, il a même chanté avec nous, donc du coup, ça a été génial. Ça a été une expérience, vraiment, on en est tous sortis grandis, quoi.
Tu disais livide.
Avec une volonté de...
Ouais. Tu disais livide.
Avec une volonté de faire toujours comme ça.
Vous disiez beaucoup de stress, monter livide sur scène, pour...
ouais.
Parce qu'on craint de se faire jeter.
En fait, le public ne nous connaissait pas du tout. On ouvre quand même pour un groupe qui est Twitch, voilà, c'est la réputation des plus à faire.
Mmh.
Donc du coup, à ce moment-là, on se dit de faire jeter, de ne pas être bon, voilà, de faire le coin d'arriver, d'avoir le trac au possible sans pouvoir sortir un mot. Donc du coup, une grande salle comme ça, l'Élysée Montmartre, c'est une super salle, quoi. Quand on connaît tous les artistes qui ont joué là, il y a une pression en plus du lieu et de l'aura artistique que ce lieu-là, quoi.
D'accord. Vous avez pu un peu côtoyer les mecs ou pas du tout?
Très peu.
D'accord. Chacun est dans son univers, quoi.
C'est ça, voilà. Après, le tour manager était adorable avec nous. Il nous a un peu pris sous son aile. Nous a aidés. Voilà, il nous a même aidé à décharger le matos, quoi. Donc,
d'accord.
Après, voilà, le crew était génial. L'équipe de l'Élysée Montmartre, alors là, était fantastique. C'est vraiment, de ma vie de musicien, j'ai très peu vu d'un accueil comme ça.
Bah écoute, tant mieux.
C'était une expérience qui nous en a fait grandir et avoir une motivation constante.
Et autre expérience... ouais, vas-y, pardon.
C'est à nous de continuer à travailler pour avoir des salles comme ça.
Et autre concert peut-être où tu peux un peu nous en parler, autour du Hellfest?
Oui. Ça a été une belle expérience aussi humaine, ça, parce que on a fait de L-Session la veille du Hellfest sur le parking du Leclerc. Et on a fait un concert le matin. Et on a eu la chance l'après-midi de faire un concert avec Norbert Krief, le guitariste de Trust.
C'est ce qu'on voit comme quelques photos sur le réseau, ouais.
Ouais. Et là, c'est un moment magique parce que j'écoute Trust depuis que je suis tout petit. Les vinyles de mon père dans la gare, voilà. Il y avait Trust, quoi. Et j'étais fan inconditionnel de Trust gamin, chanté au tir antisocial à 7 ans, quoi. Donc du coup, de me voir moi aujourd'hui, voilà, à 33 ans sur scène avec ce mec-là, je me dis waouh, j'ai réalisé un petit truc quand même en tant que musicien. Et après voilà, on a eu un échange avec Norbert où il nous a vraiment félicité, il nous a encouragé et on a vraiment gardé contact en plus, donc.
Et c'est
génial.
C'est le genre d'opportunité qui se présente comment? Enfin, c'est un coup de bol,
c'est un gros coup de bol de la part du label qui a aussi un petit peu travaillé là-dessus.
D'accord.
Il a joué avec quelques musiciens de toute la journée, de tout le session, et en fait il nous a choisi à nous, quoi.
D'accord. Ah bah oui, ça fait plaisir.
Ah, ah oui, ça fait très plaisir même. Il a joué sur nos chansons aussi à nous. Et alors là, c'est là où on voit que le musicien est très fort, c'est qu'il connaît pas nos chansons, le mec il arrive, il tient le truc impeccablement, quoi.
Ah bah, il y a des mecs talentueux, hein, c'est clair.
Oui, c'est là, tu vois que c'est un grand.
Deux petites dernières questions avant de terminer, juste par un petit quelques questions plus rapides. Qu'est-ce que tu peux nous dire en général de la scène rock vue de Nice?
La scène rock?
Ouais.
Vue de Nice?
Ouais.
Ah ben chez nous, alors il y a quelques groupes émergents à Nice. Hein. mais c'est vrai que c'est pas une région qui est propice à ça. Et c'est malheureux parce que vu qu'il y a de moins en moins de groupes rock, hard rock, metal, et ben toute une scène et des structures se meurent. Donc j'ai une certaine tristesse quand je vois tout ça, parce que j'aimerais que Nice soit aussi connu, pas que pour sa plage, mais soit reconnu pour ses groupes de rock, quoi.
Mais il y a plus de public. Enfin, c'est comment tu l'expliques?
Il y a très peu de public, il y a peu de structures. Voilà, c'est maintenant à Nice. Oui, tu as les pubs, voilà, les groupes de reprise, mais c'est vraiment essentiellement pour les touristes. Donc, il y avait plus grand chose. Il y avait des salles qui ont fermé, faute de subventions de la mairie. La culture niçoise est en train de se mourir petit à petit. Surtout la culture rock. Et c'est vraiment un crève-cœur quand on sait tous les groupes qui sont venus jouer à Nice dans les années 80 et 70. On a eu les plus grands, on a eu Motorhead, on a eu Maiden, on a eu AC/DC, Metallica, tout le monde est venu jouer à Nice. Les Stones, même les Beatles ont joué en 65 à Nice.
Mmh.
Il y a Beyoncé qui est passé au nouveau stade de foot, voilà, ça a été le dernier gros concert, quoi. Waouh.
Ah oui, non, c'est plus, oui. Mais par exemple, avec une scène comme Marseille, ça, elle aussi, oui. C'est un peu le même phénomène, ou?
Ah non, Marseille, il y a une très grosse scène. Marseille, il y a une très très grosse scène métal.
Dagoba, etc. Bon.
Mes amis de Dagoba, voilà, c'est vrai, ça fait des années que je les ai connus. Ils ont une vraie scène, ils ont des salles, des structures, ils ont une structure qui s'appelle l'Hôtel de la Musique, où il y a des studios de répète et une salle de concert. C'est super ce qu'ils font, ils ont des bonnes subventions, et ils se bougent. Il y a une salle, le Sheridan, il y a le Moulin, il y a tellement d'endroits de concerts, c'est indécent même comparé à Nice, quoi.
C'est vraiment un problème niçois, c'est pas un problème de la région.
Oui, c'est un problème niçois. Non, c'est pas la région, c'est vraiment Nice. Voilà.
Il est parent, Estrosi?
Il est parent du tout, même si un jour il m'a avoué qu'il aimait Motorhead.
D'accord. Bon.
J'ai bossé, j'étais régisseur des théâtres pour la mairie de Nice. Un jour, j'ai eu en conférence et j'avais un t-shirt Motorhead et il est venu me voir et me dit: j'adore Motorhead moi aussi.
Ok. Qu'il fasse plus pour le rock, en tout cas.
Ouais, voilà. J'avais envie de dire, c'est parce que t'as fait de la moto quand t'étais jeune ou quoi?
Ouais, c'est bien possible. Voilà. Et donc, juste pour terminer, deux petites questions pour mieux connaître tes goûts. Ton titre préféré de tous les temps?
Oh là 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 là. Merde. Alors, on m'a posé la question récemment et j'en ai sorti 5. Donc, si vraiment je devais faire vraiment le titre préféré de tous les temps, Strawberry Fields Forever des Beatles.
D'accord. Ton premier album rock acheté?
Mon tout premier album rock acheté, c'est moi-même avec mon argent, Injustice for All de Metallica.
Et le dernier?
Vraiment. Le dernier album que j'ai acheté, laisse-moi réfléchir, je crois que c'est le dernier McCartney.
D'accord. T'es adepte des machins de streaming, là, Deezer & Co. ou pas?
J'ai toujours beaucoup de CD dans ma voiture et tout, mais c'est vrai que j'ai ces trucs-là pour quand tu fais quelque chose, quand tu cuisines ou quoi, ou avoir quelque chose en fond, quoi.
Parce que
on peut aller changer de CD.
En tant qu'utilisateur, on comprend l'intérêt. En tant que musicien, on ne sait jamais si c'est une malédiction ou une bénédiction, ce truc.
Un peu des deux, vraiment un peu des deux. Parce que nous, ça nous arrivait, on est dans certains flots d'artistes, un truc qui passe un peu au hasard, donc ça permet aux gens de découvrir. Bon, moi, c'est une bonne façon de découvrir, mais après, en tant que musicien, de ce que j'en sais, de ce que tu touches en droit en tant que musicien, c'est une malédiction.
C'est que dalle.
Vaut mieux vendre un album à la sortie de ton concert, tu vas le vendre 10 balles, les gens vont l'acheter, tu vas toucher 10 balles.
Ouais.
Tu rembourses ton truc initial, parce que t'as payé, mais voilà, c'est 10 balles pour ta poche. Mais si tu vends un album sur Deezer, Spotify et compagnie, t'as 27 centimes.
Bah oui, c'est ça.
Voilà.
Et encore, pour 27 centimes, il faut peut-être, je sais pas combien, 1000 écoutes, enfin, un truc assez délirant.
Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, là, en vendant ton CD à la fin du concert, eh ben, t'as touché un public, tu vois ton public, tu le rencontres. Ils ont un support physique, ils peuvent montrer aux gens, voilà. Donc, moi, j'aurais plus, voilà, à dire aux artistes, comme beaucoup le font, hein, le merchandising et les CD dans les concerts, ça c'est beaucoup et ça sera toujours. Donc c'est, pour moi, c'est la meilleure façon de soutenir un artiste comme ça. Et après, pour découvrir, parce que moi c'est vrai que j'ai découvert pas mal de groupes via ces plateformes là, donc Et après, si j'aime beaucoup, je vais acheter un CD.
Voilà.
Moi, ça m'arrive d'écouter le CD qui sort d'un groupe, d'écouter d'abord là-dessus et de me dire, ah putain, j'aime vraiment bien et j'ai envie d'avoir l'objet en main.
Mmh, ouais. Je crois que c'est la bonne démarche. Voilà. Ouais. Je crois que c'est la bonne démarche. Bon. Bon, bah écoute, grand merci et puis à bientôt.
Merci à toi et à bientôt. Et puis, si j'ai vraiment un message à faire passer aux gens, soutenez la scène locale, les gens, les groupes, voilà, des structures, c'est vraiment ce qui sauve la musique.
C'est parfait, le message est passé. À bientôt.
Voilà, à bientôt, ciao.
Ciao.